Bruno Gabellieri, vous êtes le délégué pour l'œuvre d'Orient dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Vous êtes également docteur d'État en droit. Vous êtes diplômé de l'Institut du droit, de la paix et du développement de l'Université de Nice. Et vous allez aujourd'hui nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en Syrie. Voilà un pays qui est dans la tourmente et c'est pas nouveau. On a l'impression que la Syrie a toujours été un pays dans la tourmente. Alors vous allez nous aider un petit peu à décrypter l'actualité et peut-être pour commencer à comprendre un petit peu le paysage de la Syrie aujourd'hui. Quel pays est-ce que cette Syrie qui comptait en 2011 21 millions d'habitants? Aujourd'hui la Syrie c'est quoi?
Alors la Syrie c'est un très vieux pays, mais un pays multiple par ses composantes. Historiquement, c'est un des premiers pays chrétiens, puisque dès le IIe siècle, la Syrie a été évangélisée. Tous, nous avons en mémoire, évidemment, la conversion de saint Paul à Damas.
Sur le chemin de Damas.
Et puis, ce qui s'en est suivi autour, puisque effectivement, cette conversion à l'époque a fait grand bruit. Et donc, la communauté chrétienne syrienne a toujours été une des communautés florissantes au Moyen Âge, avant le développement, évidemment, de l'islam. Depuis le développement de l'islam, ce qu'il faut dire, c'est que la Syrie, qui est au carrefour géopolitique de la Turquie, de l'Empire turc, de l'Empire perse, l'Iran à l'est, et puis à l'ouest la Méditerranée, et au sud le Liban, mais le Liban une création récente, puisque le Liban est né de la volonté de la France hein, dans les années 20. Et puis bien sûr Israël, la Terre Sainte pour nous, les chrétiens, juste au sud du Liban. La Jordanie, elle, c'est une création, elle aussi, récente, d'un protectorat britannique. Et l'Irak, un peu plus à l'est, coincé entre l'Iran et effectivement la Jordanie. Donc la Syrie, c'est une mosaïque. C'est ce qu'on aurait pu dire pratiquement par extension, comme la Galilée, le carrefour des nations. Oui. C'est tout à fait ça. C'est dans le prolongement d'ailleurs de la mer de Galilée. Si on regarde la plaine de la Bekaa et que l'on va vers l'Euphrate, on comprend que la Syrie est un point de passage. Alors au nord, c'est les Kurdes. Nord-est, ce sont les Kurdes. À l'extrême ouest, c'est les Alaouites sur la côte, dont on reparlera certainement tout à l'heure. Et puis au milieu, c'est l'islam, je dirais, en grande majorité. 80% de la population syrienne est caractérisée par l'islam, avec ses différents courants, évidemment. Il y a à peine, avant, je dirais, le conflit syrien actuel, on comptait encore 10% de chrétiens. Mais aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire, puisque on sait pertinemment, par exemple, qu'avec ce qui s'est passé la semaine dernière, un afflux considérable de réfugiés arrive au Liban. On peut imaginer qu'il n'y a pas que des sunnites alaouites, il peut y avoir au milieu quelques chrétiens.
Quelques chrétiens.
Oui, je pense.
Les chrétiens, eux, ils n'ont pas une zone géographique à proprement parler, ils sont un petit peu
parsemés. Non, ils se sont développés depuis Damas jusqu'à Alep, grosso modo, en passant par Homs, et puis sur la côte, évidemment, puisque c'est, je dirais, la caractéristique des chrétiens, c'est un peu comme au Liban, c'est une population essentiellement de commerçants.
Oui.
Ce ne sont pas, à proprement parler, des personnes qui sont caractéristiques de l'élevage, extensif ou pas, c'est plutôt des commerçants. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que les chrétiens de Syrie sont dans le désarroi, parce qu'aujourd'hui, dans le conflit que l'on subodore, il est probable qu'ils en fassent les frais, comme malheureusement ils ont pu faire les frais de ce qui s'est passé en Irak.
Et c'est pas tellement eux qui sont visés, mais c'est pas non plus tellement
non.
À eux qu'on fait attention.
Non, si on prend la caractéristique, je dirais, fondamentale de ce qui est en train de se passer en Syrie, je dirais que c'est une sorte de revanche de ce que j'appellerais le courant islamiste majoritaire. Je ne sais pas très bien le caractériser. Est-ce qu'il est encore sunnite? Est-ce qu'il est mixé de chiisme et de sunnisme? Je ne saurais pas dire, mais ce que l'on peut dire, c'est que les alaouites ont toujours été considérés par les autres musulmans comme des hérétiques. Et pour eux, c'est une expression qu'on a revue dans la presse récemment, c'était partir ou le tombeau. Alors que pour les chrétiens, c'était partir, simplement. On leur promettait pas, je dirais.
Donc la menace est différente.
La menace
elle
est
peut-être pas moindre, mais elle est différente.
La menace est différente. Et c'est une des clés, probablement, de lecture qu'il faut avoir en tête pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée au pouvoir d'HTC, après la chute de Hafez al-Assad le 8 décembre dernier, tout le monde s'est réjoui en se disant que c'était la libération, c'était
tout le monde
la
a pris ça pour une bonne nouvelle.
Tout le monde a pris ça pour une bonne nouvelle, y compris chez les chrétiens. Encore en mémoire et visuellement des vidéos montrant la joie collective devant même les églises chrétiennes d'Alep et des autres régions de Syrie, où tout le monde se réjouissait de la liberté retrouvée.
Ah oui, c'est ça.
Tout le monde se réjouissait. Et aujourd'hui,
ils ont pensé à ce moment-là que enfin ils pourraient vivre tous ensemble en paix.
Tout à fait. Je pense que ça a été un sentiment collectif, aussi entretenu par l'Occident, parce que nous-mêmes, probablement, on y a cru, parce que on a trop longtemps toléré finalement Assad et ses exactions, en croyant que ça finirait bien un jour, et puis finalement ça finit un jour. On croit que désormais c'est la liberté, et on s'aperçoit que la faction, je dirais, armée qui a pris le pouvoir, de manière d'ailleurs ultra rapide, qui n'a pas été vue et aperçue, je dirais, convenablement par les chancelleries. J'ai regardé hier le témoignage des Italiens qui ont dit « mais on est complètement nuls, notre ambassade n'a rien vu venir ». Mais je pense qu'on pourrait dire à peu près la même chose pour les Français. Et qui est bien malin pour dire qu'il savait ce qui allait se passer, à part, je pense, les Iraniens et les Turcs.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, la tête au pouvoir a changé, mais finalement, les méthodes, l'organisation du pouvoir et les objectifs, peut-être, sont restés les mêmes.
La tête a changé. Les objectifs sont-ils les mêmes? Je dirais que tout a été organisé par la nouvelle tête pour faire croire, je pense, que c'était très différent de ce qui avait été vécu jusqu'à présent en Syrie. Que c'était la liberté qui allait effectivement être garantie, que c'était les libertés fondamentales qui allaient être garanties, que la liberté religieuse, par exemple, serait garantie. Or, il faut pas oublier que ceux qui sont arrivés au pouvoir à Damas, avec les apparences d'un pouvoir, je dirais, avec mansuétude, eh bien, il faut pas oublier qu'ils viennent quand même de la branche d'Al-Qaïda, que ce sont les mêmes que ceux qui ont revendiqué les campagnes d'attentats islamistes.
HTC, c'est Al-Qaïda.
Ah bah, HTC, c'est Al-Qaïda, il faut pas l'oublier. Et donc, même si aujourd'hui, on prétend qu'ils ont changé, et effectivement, toutes les couleurs apparentes du nouveau pouvoir à Damas nous font croire que ça a changé. On est un certain nombre à se poser beaucoup de questions pour savoir est-ce que ça a vraiment changé.
Et en tous les cas, pour la population, pour les civils, rien n'a changé.
Alors pour les civils, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que l'État syrien est en ruine. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de police, il n'y a plus de gendarmerie. Il faut être lucide sur la réalité des faits. C'est pas parce qu'un nouveau pouvoir est en place que ce pouvoir a les moyens de ce pouvoir. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour la lecture que je peux en avoir, en observant la réalité des choses et à travers les journaux locaux sur lesquels je suis branché, notamment les journaux libanais, on peut découvrir que ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est en fait une rébellion organisée par des anciens affidés du pouvoir en place qui a été évincé du pouvoir le 8 décembre. Donc des anciens de l'armée de Bachar el-Assad, probablement soutenus par l'Iran, peut-être tolérés aussi par la Turquie, qui se vengent sur un certain nombre de territoires qu'il croit encore contrôler, notamment toute la partie montagneuse de la région dans laquelle les Alaouites sont majoritaires.
Parce que là, c'était vraiment les Alaouites qui étaient ciblés, un millier de civils Alaouites et quelques chrétiens,
Ce qu'il faut dire auparavant, c'est que c'est pas le pouvoir actuel de la Syrie qui a commencé. Il semblerait, d'après nos informations, que ce soit effectivement des anciens partisans d'El-Assad qui aient pris les armes armes et qui soit tombé sur effectivement les forces de sécurité actuelles de la Syrie et qui ait entamé un conflit limité territorialement, mais qui immédiatement a pris un retentissement considérable puisque le pouvoir en place ne pouvait pas tolérer une insurrection locale contre le pouvoir nouveau et donc s'est engagé dans une répression non contrôlée, parce que je pense que on peut essayer de faire crédit au pouvoir actuel pour dire qu'ils n'ont peut-être pas voulu les massacres, mais ils n'ont pas été capables de les empêcher.
Ils n'ont pas été capables de les empêcher parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. C'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure, c'est gouvernement
un État
qui n'a pas les moyens.
Qui n'a pas les moyens.
Les moyens du pouvoir. Ben mais quand on n'a pas les moyens du pouvoir, on n'a pas les moyens non plus de faire la paix, de construire la paix.
Et non. Et c'est pour ça que je suis très inquiet pour l'avenir de la Syrie, parce que aujourd'hui, j'ai bien peur qu'il se passe en Syrie ce qui s'est passé en Irak. Effectivement, avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau pouvoir qui n'était pas programmé, qui n'était pas organisé pour cela, même s'il s'est préparé certainement pour cela, ne peut pas contrôler un pays aussi étendu que la Syrie aussi rapidement qu'il le voudrait, même avec la meilleure volonté du monde. Ce que je veux observer aussi, c'est qu'ils viennent de conclure un accord avec les Kurdes, ce qui était totalement inattendu. Et cet accord avec les Kurdes me fait dire que la priorité du pouvoir actuel, c'est de sécuriser au maximum les différentes zones très différentes de la Syrie pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des foyers d'insurrection dans tous les
coins. Mais ça veut dire quoi, sécuriser ? Ça veut dire mettre la population sous contrôle pour pas qu'au milieu de la population émergent des groupuscules ?
Si on essaye de se mettre à la place du pouvoir en place, il essaye de rassurer les minorités comme il peut. Ce qu'a dit le nouveau chef du gouvernement syrien, c'est qu'après les exactions qui ont eu lieu sur la côte et sur la partie alaouite du territoire, il veut faire la lumière, mais est-ce qu'il sera capable de faire la lumière vraiment ? Et il assure que les violences n'étaient pas commandées, qu'il va s'efforcer de rétablir la paix. L'opération apparemment est effectivement close, terminée officiellement. Ceci étant, on aura à mon avis beaucoup de mal à savoir ce qui s'est exactement passé, et on espère que effectivement la paix va revenir dans ce territoire. Mais quand on regarde les communiqués des églises, notamment l'église locale, mais aussi le communiqué que l'œuvre d'Orient a publié, on ne peut pas, je dirais, se prononcer sur les responsabilités, on n'en sait rien. La vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait qu'il y a 1000 morts, mais on ne sait pas exactement dans quelle proportion et pourquoi et comment ça s'est réellement passé.
On marque une pause, Bruno Gavalieri. On vous retrouve juste après pour continuer cet entretien. On essaie de comprendre avec vous la situation aujourd'hui de la Syrie. À
merci, Anne-Rose.
Radio Présence à Lannemezan, 92.2.
Nous sommes toujours en compagnie de Bruno Gavalieri, délégué pour l'œuvre d'Orient dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Alors avec vous, Bruno Gavalieri, on essaie de comprendre ce qui se passe en Syrie. Vous nous avez aidé à visualiser un petit peu la situation avec cette mosaïque de communautés ethniques et religieuses qui composent la Syrie. Alors c'est à la fois sa richesse. D'ailleurs, on pourrait penser ou on pourrait espérer, supposer peut-être que cette grande diversité et puis sa position aussi géographique que vous nous avez expliquée soit un atout, une opportunité, une richesse. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais est-ce que ça pourrait être le cas dans un futur peut-être pas tout à fait proche, mais est-ce que c'est possible d'envisager que cette diversité-là soit une source d'opportunité pour que les populations puissent se reconstruire ?
Alors la difficulté, elle est là, c'est qu'aujourd'hui la Syrie, en fait, est un enjeu de pouvoir entre les puissances régionales qui veulent dominer le secteur. La Turquie veut s'étendre au sud, l'Iran veut s'étendre à l'ouest, et dans ces deux mouvements, il y a aussi un invité tiers extérieur, c'est la Russie, qui elle-même s'est installée grâce à el-Assad avec ses bases sur la Méditerranée,
puisqu'elle vise
l'accès à la Méditerranée pour sa flotte de la mer Noire qui est en péril avec le conflit ukrainien. Donc il faut comprendre tout ça pour effectivement saisir la complexité de la situation. Et tout le monde, en fait, toutes ces entités régionales font la guerre finalement entre elles par procuration, à travers les mouvements, je dirais, qu'elles commandent ou qu'elles télécommandent depuis leur base arrière d'origine. Tout le monde se souvient que le Hezbollah voyait ses armes transiter par la Syrie, avec la complicité objective, il faut le dire, hein, de l'Assad, mais les armes venaient d'Iran. Aujourd'hui, l'Iran n'est plus présent aussi manifestement ni au Liban, ni en Syrie, mais on devine bien qu'il ne peut pas être étranger à ce qui se passe. Et donc, la main de l'Iran est là. Et la main de la Turquie aussi, parce que la Turquie peut pas se désintéresser de la Syrie, comme elle ne se désintéressait pas de l'Irak, dans la mesure où la minorité kurde du nord de la Syrie, comme du nord de l'Irak, est un danger pour elle. Parce qu'elle a toujours redouté l'autonomie kurde. Aucun de ces États autour de la Syrie n'a une vision fédérale de sa propre conception de l'État. Et la Syrie, qui aurait pu être dans une vision fédérale harmonisée, où toutes les communautés différentes seraient respectées dans leur autonomie locale et régionale, et même, pourquoi pas, ethnique et religieuse, eh bien, cette Syrie-là, manifestement, on en est loin, même si on peut rêver. Le juriste de droit international que je suis peut rêver, mais le rêve se cogne malheureusement à la réalité d'aujourd'hui. Avec en plus un Israël au sud qui peut pas se désintéresser de ce qui se passe en Syrie. Ouais. Ils sont trop près de Damas pour se désintéresser d'éventuelles armes qui pourraient être dirigées contre eux. Donc, ça fait beaucoup. Et par-dessus, il faut rajouter les Américains, qui ont une base extrêmement importante en Syrie, qui sont restés totalement silencieux dans toute cette séquence depuis le 8 décembre, mais dont on peut pas dire qu'ils ignoraient ce qui se passait. C'est quand même eux qui sont les mieux informés de tout ce qui se passe. Et donc, ils ont au moins toléré ce qui s'est passé.
Et la France ?
Alors la France, elle aussi, ne peut pas, à mon avis, ignorer complètement ce qui s'est passé en Syrie, tout simplement parce que nous avons une base aérienne en Jordanie depuis la chute de l'Irak, qui veille à ce que le mouvement Al-Qaïda ne ressuscite pas. Ce que j'en sais, c'est que cette base est restée, elle aussi, hors de tout ce qui s'est tramé en Syrie. Mais on peut pas ignorer ce qui se passe quand on est bien informé, comme peut l'être la France non plus.
Alors, ce qui est terrible, c'est que quand on vous écoute, Bruno Gabellieri, on se dit que finalement, l'intérêt que les autres pays, que les nations ont pour ce qui se passe en Syrie dépend vraiment des intérêts qu'ils pourraient en tirer, soit de cette guerre, soit... dans le meilleur des cas, de la construction de la paix, mais en fait,
On est loin de l'intérêt des Syriens eux-mêmes.
Et oui, c'est ça. Et
c'est
ça, c'est quand même...
Si on
observe ça comme chrétiens, et c'est ce que nous essayons de faire Radio Présence, on a quand même envie de crier au scandale.
On a envie de crier au scandale, on a envie de faire en sorte que l'Union européenne elle-même élève la voix en disant ce qui s'est passé cette semaine est intolérable, il faut que ça cesse. Là, les instruments de pression, on les a, puisqu'on a annoncé des milliards d'aide au nouveau gouvernement syrien pour le rétablissement précisément de l'ordre en Syrie. Si c'est pas ce qui se passe, je pense qu'il faut être tout à fait clair sur notre aide et la conditionner à ce que effectivement ça se passe le mieux possible. Et puis d'autre part, je pense que la France, qui a une responsabilité historique sur l'ensemble de ces territoires, que ce soit au Liban ou en Syrie, eh bien, élève la voix elle aussi, parce que son ministre des Affaires étrangères, sur le moment, je ne le vois pas encore beaucoup s'exprimer là-dessus.
Quand on évoque ce qui s'est passé il y a quelques jours avec massacre d'un millier de civils, on rajoute évidemment toujours un millier de civils à la huit. Enfin, le fait de préciser qui sont ces civils, est-ce que finalement c'est pas quelque part mettre de l'huile sur le feu? Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir qui sont ces civils? À partir du moment où il y a un millier de civils qui sont tués, c'est toujours un drame. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir qui ils sont pour dénoncer l'horreur?
Mais non. Bien sûr que non. Vous avez parfaitement raison. Et c'est là qu'on peut être entraîné dans un engrenage dangereux, c'est-à-dire dans du conflit ethnique, religieux, raciste, etc. Et là,
c'est-à-dire que
l'engrenage fatal.
Oui. Si ma communauté ne souffre pas, eh bien, je ne souffre pas.
Je souffre pas. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, j'ai écouté les appels au secours, notamment de certains supérieurs de monastères, c'est très clair, ils sont inquiets. Ils ne sont pas inquiets pour rien, c'est-à-dire que l'insécurité qui est là est une insécurité pour tout le monde. Et aujourd'hui, les chrétiens sont en danger en Syrie, il faut être lucide.
En 2011, c'était le printemps arabe, tout le monde y a cru, y compris en Syrie. Là, on est passé à côté du rêve, on n'a pas...
Oui, complètement, et je pense qu'on y a cru aussi en Libye, on y a cru aussi en Irak, mais bon, on s'aperçoit que partout, malheureusement, le conflit armé est latent. On l'oublie, mais on n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas de couverture de presse dessus. Mais malheureusement, tous ces pays arabes sont aujourd'hui en proie à des convulsions internes terribles.
Alors je vais vous poser une autre question, peut-être terrible, qui va sans doute vous faire bondir, Bruno Gabellieri, mais quand vous nous dites que les chrétiens sont vraiment une toute petite minorité, une toute petite communauté en Syrie, à quoi bon rester ? À quoi bon rester quand on est si peu nombreux, quand on est autant menacé ? Pourquoi rester dans un pays qui est en friche ?
Alors je pense que pourquoi rester ? Il y a d'abord ceux qui n'ont pas les moyens de faire autrement que de rester. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient. Quand vous n'avez pas les moyens de vous offrir le voyage à l'étranger, vous faites comment ? Comme on n'envoie pas des bateaux pour sauver ceux qui désirent partir, eh bien, les gens sont coincés. Ceux qui sont partis d'Irak le savent bien, ils ont tout perdu. Et pour ce qui est des chrétiens, que ce soit en Syrie ou au Liban, la question se pose toujours. Ce que l'on voit, c'est que c'est les enfants qui partent. Les enfants, pour lesquels chaque famille, je dirais, rêve le meilleur, ben vont faire leurs études à l'étranger. Et puis ensuite, évidemment, ils sont aspirés par l'Amérique, l'Europe. Eh oui. Et c'est complètement logique et c'est complètement normal. Donc, je dirais que ceux qui restent, ils savent qu'ils vont porter leur croix. Et je crois que nous, notre devoir, c'est de prier pour eux, c'est de les aider. L'œuvre d'Orient est là pour ça. Nous avons des délégués sur place qui sont extraordinaires, qui font, je dirais, corps avec les minorités chrétiennes présentes. Je pense à Vincent Gelot pour la Palestine, la Syrie, qui est là avec sa famille et qui y croit et qui aime ces pays de l'Orient et du Moyen-Orient. Il faut les aider à rester, il faut aider les communautés religieuses à rester, il faut aider les écoles, il faut aider effectivement contre vents et marées. Mais c'est ça l'espérance chrétienne.
Il y a encore cette vie-là quand même.
Il y a encore cette vie-là. Et pour ceux qui sont allés en Syrie, moi j'y suis pas allé, ils peuvent témoigner de la vigueur, entre guillemets, des chrétiens syriens. C'est assez remarquable. Et même en Irak, où on a retrouvé une liberté religieuse K1, K1, effectivement, la vigueur de la foi est là.
Pour en revenir à cette population qui souffre et dont, pour une part, se réfugient ailleurs, dans les autres pays, ils vont où ? Les réfugiés, ils partent où ?
Alors,
et dans quelles conditions ?
Aujourd'hui, on sait que sur ce qui s'est passé dans l'est de la Syrie, avec cet épisode triste de 1000 morts... dans ce qu'on peut appeler une tuerie à grande échelle, eh bien, les réfugiés filent au Liban. Ils n'ont qu'un fleuve à traverser.
D'après mais tous nos les informations, réfugiés, c'est-à-dire
tous les réfugiés, que ce soit des alaouites sunnites qualifiés d'hérétiques par la majorité sunnite du pays, ou que ce soit peut-être des chrétiens, parce que aujourd'hui on n'a pas demandé leur certificat de musulmans ou de chrétiens pour ceux qui ont passé la frontière à Dodom, puisque donc, les photos qu'on a pu voir et les reportages qu'on a pu voir du Liban font état de 6000 réfugiés déjà au Liban, ce qui veut dire qu'il y en a probablement plus et que ces personnes-là vont encore agrandir le contingent de réfugiés au Liban qui en peut plus déjà des réfugiés.
Ça veut dire que un des enjeux pour les pays qui accueillent ces réfugiés, c'est que le déplacement de ces réfugiés ne déplace pas non plus le conflit d'un pays à un autre.
C'est ce qui s'est passé au Liban. Hein. Et le Liban souffre effectivement d'avoir récupéré, alors que c'était un pays... où la vertu de tolérance était la plus magnifiquement, exercée, c'est un pays victime de l'afflux exagéré de réfugiés de toutes les origines, que ce soit les Palestiniens, que ce soit les Irakiens, que ce soit les Syriens aujourd'hui. C'est terrible.
Mais alors la faille, elle vient d'où ? La faille, est-ce qu'elle vient vraiment des communautés ? Les communautés, elles ont le désir de vivre bien ensemble. Est-ce qu'elle ne vient pas, cette faille, plutôt du gouvernement, de la manière dont le pouvoir...
Gouvernement qui est incapable de protéger la totalité de sa population est forcément coupable de cette non-protection de son pays. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé dans tous les cas de figure. Et aujourd'hui, il est clair que réfugié veut dire déstabilisation quelque part derrière. Mmh. Et c'est ça que... Malheureusement, on est en train de revivre à grande échelle, peut-être, sur la Syrie.
Bruno Gabellieri, on arrive au terme de cet entretien. On va essayer de terminer sur une touche d'espérance quand même. Nous sommes dans l'année jubilaire. Quand on vous écoute, c'est peut-être difficile de percevoir une lueur d'espérance, mais ça aussi, là encore, c'est notre rôle de médias chrétiens de donner de l'espérance au cœur de cette actualité. Vous me disiez en préparant cette émission que la Syrie, c'était... Il y a encore quelques années, vraiment d'abord une terre de destination. On s'y rendait. C'était une terre qui faisait rêver. Comment cette terre peut-elle encore faire rêver aujourd'hui ?
Eh bien, en restaurant la paix, il faut à tout prix que tous ceux qui ont intérêt à ce que la paix revienne travaillent à cette paix. Si on peut espérer, il faudrait que l'ensemble des parties prenantes, probablement à l'initiative, pourquoi pas du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi pourquoi pas à l'initiative de l'Europe, lance une conférence de paix pour la Syrie. Et c'est ça qu'il faut espérer pour la Syrie et pour la paix en Syrie.
Un grand merci à vous, Bruno Gabellieri. Je rappelle donc que vous êtes le délégué pour l'œuvre d'Orient pour le diocèse de Tarbes et Lourdes et que vous êtes également docteur d'État en droit. Merci beaucoup pour votre éclairage et
de
à
rien,
bientôt.
Anne-Rose, à bientôt.